9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le 2 décembre dernier, on évoquait déjà dans cette émission la possibilité qu'avec Omicron, la Covid devienne une maladie bénigne, un simple rhume, et que s'en soit fini de la pandémie. Eh bien, cela pourrait se confirmer. On fait le point dans un instant avec l'épidémiologiste Jonathan Roux. Je recevrai ensuite François-Guillaume Lorrain. Dans son nouveau roman Scarlett, il nous raconte la production et le tournage d'Autant en emporte le vent à la fin des années 30. Une vraie folie pour l'époque. Et on terminera l'émission avec Nathalie Elal. On croit en général que la seule spécialité culinaire parisienne, c'est le jambon beurre, mais il y en a beaucoup d'autres, et des produits typiques et des savoir-faire. Et oui, Paris a un goût. Elle va nous le raconter.
Europe 1.
Jonathan Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. On va voir avec vous si le vent d'optimisme qui commence à souffler grâce à Omicron est justifié. Alors, Omicron serait à l'origine de très peu de cas graves. Selon une étude américaine, sur 50 000 patients contaminés par Omicron, on ne relève que 235 hospitalisations, dont 5 en réanimation. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'avec Delta.
Oui, tout à fait. On voit que le variant Omicron conduit à moins d'hospitalisations et à beaucoup moins d'admissions en réanimation. Cette étude américaine, comme vous la citez, a estimé qu'il y avait environ 50% de réduction du risque d'être admis en hospitalisation et jusqu'à 70% de réduction du risque d'aller en réanimation si on était contaminé par le variant Omicron, ce qui est donc une bonne nouvelle face à cette nouvelle vague épidémique que l'on est en train de vivre.
Et les séjours à l'hôpital seraient 70% plus courts avec Omicron qu'avec Delta. C'est la même étude qui nous le dit.
Oui, cette étude donne également des premières indications sur la durée des séjours. On voit qu'il serait beaucoup plus court, notamment parce que les symptômes seraient plus légers et plus faciles à être pris en charge. Finalement, il ne nécessiterait qu'une oxygénation importante et non plus le besoin d'être placé en réanimation, vu que le variant Omicron s'attaquerait moins aux poumons.
Et Omicron tuerait 10 fois moins que Delta.
Oui, Omicron tuerait beaucoup moins. Notamment, on pense que c'est d'un côté du fait qu'il s'attaque plus aux voies respiratoires supérieures, donc c'est-à-dire qu'il reste plus au niveau du nez, comparé au variant Delta qui s'attaquait plus aux bronches, donc aux poumons. Et également, on voit que c'est aussi l'effet aussi peut-être de la vaccination qui permet de nous protéger et donc qui conduit à ce que ce variant conduise à moins de décès, ce qui est également une bonne nouvelle puisque ça pourra réduire, en plus du fardeau hospitalier, le fardeau de décès que l'on a depuis le début de l'épidémie.
Donc Omicron est vraiment moins virulent, la plupart des cas sont asymptomatiques, mais ça n'est pas le cas pour les non-vaccinés ?
Oui, ça reste un variant qui peut être dangereux pour les personnes non vaccinées. Donc sa dangerosité, elle est estimée à environ celle du variant historique, donc le tout premier, celui de la première vague divisé par deux. Donc il reste quand même un variant dangereux, notamment si on n'est pas vacciné, puisque évidemment, il y a toujours des personnes qui sont fragiles parmi les personnes non vaccinées et on peut toujours être exposé à une forme grave. Et donc c'est pour ça que on peut dire que ça peut être une maladie qui peut être bénigne, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une maladie qui peut conduire à l'hôpital et peut quand même conduire à des décès, notamment chez les personnes non vaccinées. C'est pourquoi on ne peut que toujours encourager à la vaccination, notamment quand on voit que l'arsenal des vaccins à notre disposition s'élargit de jour en jour et qu'on a maintenant différents vaccins qui ont toutes différentes caractéristiques et qui sont surtout tous très efficaces contre les formes graves, notamment contre Omicron et Delta.
Ceux qui sont visés par ces formes graves, ce sont les immunodéprimés, ceux qui ont des comorbidités, hein, comme toujours.
Oui, toujours. On sait que ce sont des personnes donc immunodéprimées qui ont évidemment déjà un système immunitaire qui est plus faible, qui est défaillant comparé au système immunitaire d'une personne lambda. Également, les personnes qui ont des comorbidités, donc ce sont toujours les mêmes comorbidités, que ce soit l'obésité, les maladies pulmonaires ou cardiaques. Mais il est également possible que des personnes qui n'ont pas de comorbidité puissent malheureusement être admises à l'hôpital. Ça reste quand même une part moins importante. Et de toute façon, ce qu'on voit toujours actuellement avec les données françaises notamment, c'est que la majorité des personnes qui sont à l'hôpital sont toujours des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et c'est d'autant plus frappant en réanimation.
Alors, l'Agence européenne de médicaments confirme par la voix de son chef de la stratégie vaccinale que nous avançons avec Omicron vers un scénario beaucoup plus proche de l'endémie que de l'épidémie. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour un épidémiologiste comme vous, Jonathan Roux ?
Alors, passer avec un virus qui sera endémique, ça veut dire que ce sera un virus qui va rester à circuler continuellement sur le territoire. Et c'est un peu ce qu'on vit avec notamment la grippe. Donc, c'est également, ça veut dire que le virus reviendra de façon saisonnière. On pense qu'il reviendra principalement en hiver et que finalement, les gens vont être exposés de façon assez régulière à ce virus et donc vont développer une immunité qui leur permettra en fait d'avoir sans doute des symptômes certaines années, mais en fait les gens iront beaucoup moins à l'hôpital puisque leur immunité leur permettra d'être protégés en cas de réinfection. Et ça évidemment l'Agence européenne le dit en espérant qu'il n'y ait pas d'autres variants qui viendraient une nouvelle fois rabattre les cartes.
L'Espagne a remis en cause sa politique de test à grande échelle. En effet, est-ce que ça a encore un intérêt de tester autant que nous le faisons ?
Alors actuellement, on est toujours en haut de la vague, donc ça reste intéressant de notamment pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on va atteindre ce fameux pic des contaminations, puisque ça va nous permettre d'anticiper la prise en charge des patients et donc d'avoir une idée sur quand arrivera le pic des hospitalisations. Et également, il faut continuer à tester pour pouvoir estimer la descente, pour pouvoir voir à quelle vitesse est-ce qu'on va descendre de ce pic, est-ce qu'on va descendre très rapidement, comme ça a l'air d'être le cas notamment au Royaume-Uni, ou est-ce qu'on va descendre avec un plateau qui pourrait apparaître. Évidemment, il faut également penser à prioriser les tests, c'est ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire essayer de l'accorder aux personnes qui en ont le plus besoin, les personnes symptomatiques, les personnes fragiles, puisque ce sont les personnes qui sont les plus à risque d'être à l'hôpital. Et ensuite, l'Espagne envisage, une fois qu'elle aura passé son pic, de passer une surveillance comme elle le fait pour la grippe, comme on le fait en France pour la grippe avec notamment le réseau Sentinel, c'est-à-dire moins tester un petit peu partout sur le territoire pour pouvoir suivre le virus et ainsi avoir des signaux qui nous diront quand est-ce qu'on fera face à une vague de contamination par ce nouveau variant. Ça, on sait très bien le faire. On sait très bien le faire avec la grippe notamment. Donc, ce serait juste une adaptation finalement du protocole qu'on utilise pour la grippe pour un nouveau virus qui est le virus du SARS-CoV-2.
Jonathan Roux, ne quittez pas. On fait une pause. On se retrouve juste après. Ce n'est pas tous les jours qu'on annonce des bonnes nouvelles, des nouvelles optimistes en ce qui concerne le Covid. Alors, on continue juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Grâce à Omicron, le Covid est en train de se transformer en maladie bénigne. On continue de faire le point avec Jonathan Roux, épidémiologiste, chercheur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. L'Espagne, toujours, qui appelle donc déjà à gérer le Covid comme une épidémie de grippe, réduit la quarantaine. Omicron ayant une période d'incubation inférieure, hein, entre 2 et 3 jours, à un variant comme Delta.
Oui, on voit qu'on doit constamment s'adapter. On voit que le variant Omicron, il est beaucoup plus contagieux et notamment que la période d'incubation est beaucoup plus courte que pour Delta. Delta, c'était estimé autour de 4 à 5 jours. Et là, Omicron, on voit qu'on tombe plus à 2-3 jours. Ce qui fait que, évidemment, il faut aussi voir pour la période de quarantaine. Aussi, ce qu'on sait, c'est que maintenant, on a une population qui est majoritairement vaccinée et l'effet du vaccin, notamment sur la contagiosité, le fait de transmettre le virus, ça permet de réduire assez rapidement la charge virale des patients. Et donc, c'est pour ça qu'on peut envisager de réduire la quarantaine. En France, on l'a déjà fait une première fois, pour notamment faire face à un risque de désorganisation de la société, vu qu'on voit qu'on atteint environ presque 2 millions de personnes qui sont testées positives toutes les semaines. Et donc, évidemment, on ne peut pas se permettre d'isoler toutes ces personnes à l'origine pendant 10 jours. C'est pour ça qu'on a raccourci le délai à 7 jours, voire même avec une possibilité de raccourcir encore à 5 jours si la personne ne présente plus de symptômes et a un deuxième test négatif au bout de 5 jours.
Mais en dépit des 2 millions de contaminations hebdomadaires, la tension à l'hôpital est sans commune mesure avec ce qu'ont connu les soignants lors des vagues précédentes et sans rapport pour le moment avec le nombre de cas positifs. On craignait que la plus grande contagiosité d'Omicron envoie mécaniquement, mathématiquement plus de gens à l'hôpital. Ça ne semble pas être le cas.
Oui, actuellement, on voit qu'on a vraiment une totale décorrélation entre le nombre de cas et le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital. Finalement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'avec près de 300 000 cas par jour, l'hôpital n'aurait pas pu admettre autant de patients que ce qu'il admettait avant avec le variant Delta. Ça, c'est l'effet direct notamment de la vaccination et de la moindre dangerosité du variant Omicron. Donc évidemment, on voit que la vague hospitalière actuellement était majoritairement composée de personnes qui avaient été contaminées par le variant Delta. Là, on voit un changement. On voit que sans doute, on a franchi le pic de la vague de Delta au niveau des patients qui arrivent à l'hôpital. Et là, maintenant, on passe dans une vague d'Omicron. Et heureusement, ce variant étant beaucoup moins dangereux, oui, on voit qu'on a beaucoup moins de personnes qui vont arriver et des personnes qui, comme on l'a dit déjà, vont rester moins longtemps, ce qui va permettre d'avoir un vrai roulement à l'hôpital. Et également, on a un développement de l'hospitalisation à domicile. Donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir être pris en charge chez eux, ce qui permet pour eux d'avoir un confort et également d'avoir moins de personnes hospitalisées en même temps et donc une saturation hospitalière.
Mais une fois qu'on a dit tout ça, Jonathan Roux, on peut se dire qu'effectivement, on pourrait en sortir. Alors à partir de quand? Dès le mois de février, ça pourrait vraiment redescendre là?
Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'on va atteindre sans doute un seuil d'immunité collective qui sera temporaire, comme on a déjà atteint au précédent pic. Donc ce qui veut dire qu'on va amorcer une descente en termes des contaminations, sans doute à partir très prochainement, sans doute à partir de la fin janvier. Et ensuite, en fonction de la vitesse de descente, on peut espérer, comme vous l'évoquiez, descendre, avoir une pente assez forte et donc au fin février, retourner à un niveau de contamination qui soit beaucoup plus faible, beaucoup plus acceptable et qui permettra évidemment de dire que sans doute cette vague est derrière nous et grâce à cette immunité que la majorité des personnes auront développée, qu'elle soit naturelle par contamination avec le variant Omicron ou alors une immunité conférée par le vaccin, on va pouvoir sans doute arriver jusqu'à l'été sans avoir une autre vague qui pourrait survenir, notamment si on n'a pas de nouveaux variants et si, évidemment, l'immunité dure dans le temps, mais on n'a pas de raison pour l'instant de penser que ça ne serait pas le cas.
Oui, il est donc possible, comme l'imaginait Bruno Canard il y a 2 mois dans cette émission, que le Covid devienne un simple rhume et qu'Omicron soit un vaccin naturel qui va immuniser toute la planète.
Oui, on sait que le variant Omicron confère une immunité naturelle et on espère qu'elle va durer dans le temps comme elle avait duré pour les autres finalement pour les autres variants. Aussi, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont été contaminées par naturellement par un des variants et également vaccinées ont une immunité qui est plus forte que les personnes qui ont été uniquement vaccinées, donc ce qui leur permet sans doute de mieux lutter contre une possible infection. Évidemment, il faudra voir au niveau mondial comment va se poursuivre la campagne de vaccination pour pouvoir augmenter la couverture vaccinale et donc augmenter l'immunité au niveau mondial en complément de cette immunité qui sera conférée par le variant Omicron, puisqu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir en finir avec cette pandémie et qu'on ait finalement, comme tout le monde le souhaite, simplement un rhume qui circule tous les ans, il faudrait que la majorité de la population mondiale soit immunisée pour éviter l'apparition de nouveaux variants qui pourraient potentiellement échapper à l'immunité. Et ça, ce serait le pire des scénarios, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce scénario. On peut espérer de l'optimisme et sans doute pouvoir franchir cette vague et ensuite pouvoir essayer de commencer à vivre avec le virus, chose que l'on essaye de faire depuis maintenant 2 ans.
Merci Jonathan Roux. Bien, soyons optimistes. Et après cette pause, retrouvons-nous avec François-Guillaume Laurin. On va parler du tournage épique d'Autant en emporte le vent.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
François-Guillaume Laurin, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez des romans historiques et vous venez de publier Scarlett chez Flammarion, un roman sur l'adaptation cinématographique d'Autant en emporte le vent à la fin des années 30. Ce film de 4 heures en couleur, c'est une cathédrale pour les Américains. Le producteur David O. Selznick voulait en faire le plus grand film de tous les temps.
Oui, en effet, il avait un peu contraint à accepter d'acheter pour $50,000 les droits d'un livre qu'il n'avait pas lu et qui commençait à devenir un best-seller, qui allait recevoir le prix Pulitzer. Et il s'est retrouvé devant un monstre à adapter avec des coûts qui ont augmenté au fil d'une histoire qui a duré 3 ans que j'essaie de raconter. C'est 3 années que j'essaie de raconter.
Alors, Autant n'emporte le vent, c'est d'abord une histoire de femme. Hein. C'est une femme qui l'écrit, une journaliste, Margaret Mitchell. C'est une femme, Lois Dwight Cole, qui convainc son patron de l'éditer. Ce sont les femmes qui entourent les producteurs de cinéma qui les poussent à en acheter les droits. Pour ce qui concerne David O. Selznick, c'est Kay Brown qui lui fait un rapport de lecture dithyrambique. Et puis, c'est sa propre femme qui a dans le roman.
Oui, et on comprend parce que c'est l'Amérique se prend, et surtout les femmes, s'identifient à cette Scarlett O'Hara qui est à la fois une figure d'espoir dans une Amérique de la Grande Dépression, une figure extrêmement libre, extrêmement moderne en fait, la première sans doute héroïne moderne de la littérature américaine, et puis quelqu'un qui rue dans les brancards de la société, qui dit ses quatre vérités mais qui en même temps cache ses mauvaises pensées. Donc il y a vraiment une cristallisation féminine d'abord, et ensuite d'ailleurs chez les actrices aussi qui vont défiler.
Oui, parce que Selznick comprend très vite, on le voit dans votre roman, que la fascination qu'exerce le livre sur les lectrices, c'est dû avant tout au personnage de Scarlett. Et le problème, c'est évidemment qui va l'incarner. Et il parle d'un syndrome Scarlett, c'est-à-dire que toutes les actrices d'Hollywood pensent qu'elles sont Scarlett.
Exactement. Il y a Katharine Hepburn qui peut y penser à juste titre, puisqu'elle est la seule à avoir reçu un exemplaire de Margaret Mitchell qui pense à elle. Mais il y en a d'autres qui voient évidemment commencent à comprendre que ça peut être un rendez-vous pour leur carrière. Ce sera encore poussé à l'extrême avec Vivian Leigh qui, au fin fond de son Angleterre, que personne connaît à ce moment-là, quand elle lit ce livre, en fait, elle voit toutes ses qualités et ses défauts et donc elle va s'enticher et se persuader dans une sorte de folie obsessionnelle que un jour elle va être cette Scarlett alors qu'elle n'a a priori aucune chance. Mais les autres, en effet, et tout ça relayé par un système de marketing, de disputes, parce qu'il y a les écotières qui ont leur propre candidate, et puis il y a un Selznick qui est un peu perdu parce que lui, il a d'autres problème à résoudre.
Tout ça s'étale évidemment sur plusieurs années. Entre la parution du roman en 1936 et le premier coup de manivelle, comme on disait à l'époque, en janvier 1939, il a coulé de l'eau sous les ponts. Il y a eu une sorte de concours de recrutement national. Ça a rendu fou à peu près tout le monde. Quand Vivian Leigh arrive à Hollywood, elle arrive parce qu'elle a en tête véritablement d'obtenir le rôle. Et on dit, alors est-ce que c'est une légende, mais vous la relayez dans votre livre, on dit qu'elle est présentée à Selznick sur le plateau même où se tourne la première séquence d'Autant en emporte le vent, c'est-à-dire le fameux incendie d'Atlanta. On brûle les décors de vieux films, et notamment ceux de King Kong, qu'il avait produit lui-même, hein, David O. Selznick.
Selznick qui a un problème de production, en fait, il n'a pas d'acteur, actrice dans sa possession de sa propriété, puisque vous savez qu'à l'époque, les studios avaient leurs propres acteurs, actrices. Il vient d'en fonder un, donc il obligé de louer aux autres.
Et les acteurs arriver à l'époque, c'est comme les joueurs de football. Hein. Voilà, ils sont salariés, ils sont la propriété des studios.
Très très bien payés, très surveillés dans leur vie privée. Enfin, tout est réglé, tout est industrialisé. C'est vraiment la vision industrielle de l'Amérique du cinéma. Mais lui, Selznick, c'est le challenger, le numéro 2 qui a travaillé pour les grands fondateurs, hein, qui sont là tous, Warner, Goldwyn, Mayer, le fondateur de la MGM, qui sont son beau-père. Mais quand il a claqué la porte de tous ces gens-là, il n'a personne, en fait, dans son écurie. Il n'y a pas de poulain. Et donc, il est obligé d'emprunter. Et c'est aussi une des raisons de sa difficulté. Je reviens donc à Vivian Leigh, à cette scène. Elle est réelle, avéré, vérifié. Il a commencé son film sans actrice. Hein. Donc la dernière qui devait être la bonne actrice, Paulette Goddard, la femme de Chaplin, n'est en fait pas la femme de Chaplin. Et donc, il doit y renoncer parce qu'il a peur de ligues de vertu féminines.
Elle vit avec Chaplin depuis de nombreuses années.
Elle est en concubinage, honteux et plein de turpitude. Il dit non, je ne peux pas prendre ce risque-là. Et arrive, comme tombé du ciel, un miracle. Mais ça, ce miracle, il est orchestré. Ces gens-là ont le sens, évidemment, du spectacle. Et ces gens-là, en l'occurrence, c'est le frère de Selznick, qui est un personnage assez peu connu, mais très important à l'époque, Myron, qui dirige une des grandes agences d'acteurs et d'actrices, et qui est l'agent de Laurence Olivier, qui est l'amant de Vivien Leigh. Et en fait, voilà pourquoi Vivien Leigh va remonter la piste et la pente jusqu'à Selznick grâce à Laurence Olivier, avec qui elle retravaille tout ce rôle-là à l'avance, et puis grâce à Myron Selznick qui prépare une petite surprise pour son frère. Il ne s'entend pas du tout, mais il dit voilà, je vais te jouer un petit tour, je vais arriver en retard après au tournage, mais je ne vais pas arriver les mains vides.
Et il arrive avec Scarlett.
Je te présente Scarlett, qui s'est en plus habillée un peu en Scarlett.
Il lui fait passer immédiatement des essais, il l'engage immédiatement, elle va être Scarlett. Le grand mystère, Selznick, vous l'avez dit, c'est le plus jeune, son studio est le plus petit, enfin le plus récent, on va dire, parce qu'il y en a plein des producteurs. Et comment est-ce qu'il finance tout ça? Parce qu'il veut faire le plus grand film de tous les temps, ça lui coûte d'ailleurs une fortune, diriger cette cathédrale. Comment il fait?
Ça lui coûte d'autant plus une fortune qu'avant même le premier coup de manivelle, il a déjà dépensé plus qu'un gros long métrage avec tous les essais, tous les décors. C'est faramineux. Comment il fait? Il a d'abord un adjoint dont on parle peu, Josh, qui est très lié à la bourse new-yorkaise et qui va réussir à lever des fonds. Ce qui est assez nouveau à l'époque. Ça, c'est une première réponse. Ensuite, il est obligé de passer sous les fourches codines de beau-papa, Meyer, qui est propriétaire de Gable.
Clark Gable, tout le monde...
Pour Rhett Butler.
Oui, tout
fait,
le monde
il essaye de contourner, d'éviter Clark Gable parce qu'il veut éviter beau-papa. Et en fait, il essaye Cooper, il essaye Errol Flynn, ça ne marche pas. Donc, il est obligé de repasser par monsieur Louis B. Meyer, qui quand il entendra parler du film et de sa longueur, dira « On lapiderait le Christ s'il revenait parler 4h20 ». Et Louis B. Meyer va coproduire, donc va amener beaucoup d'argent, et distribuer le film.
Oui, ça il n'a pas le choix, Selznick.
Voilà, en fait, il est le point lié, pied et point lié. D'ailleurs, il y a une photo très belle où on voit Meyer, Selznick et Gable en train de signer les contrats. Bon, c'est... Voilà, on devine ce qui s'est passé. Et donc, voilà d'où vient l'argent. À l'époque, le film coûte à peu près 3-4 millions de dollars, ce qui est faramineux. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais il explose tous les budgets. Il va de toute façon exploser aussi toute la durée de tournage, virer des réalisateurs. Les scénaristes sont au nombre de 14, hein, je me rappelle. Et donc...
On va changer de metteur en scène au milieu, mais le film va rapporter des sommes considérables, hein, l'équivalent de 3,5 milliards d'aujourd'hui. Il va être vu par environ 60 millions d'Américains. C'est une estimation, parce que les Américains comptent en dollars et non pas en entrée. Il va rester longtemps, d'ailleurs, le plus gros succès de l'histoire du cinéma sur les territoires américains, hein, jusqu'à Titanic. Et pourtant, 2 ans après sa sortie, Selznick en aura cédé pratiquement tous les droits, 98%. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Parce qu'en fait, durant le tournage, il a dû lever des hypothèques absolument faramineuses et donc céder petit à petit tous les pourcentages qu'il avait à la MGM et donc de nouveau à Louis B. Meyer. Et donc quand le film sort, c'est un cas paradoxal d'un triomphe dont il n'a jamais tiré les fruits. Et c'est ça aussi qui est très, très intéressant chez lui, c'est-à-dire que c'est un exploit impossible à renouveler.
Il essaiera pourtant. Hein,
il essaiera avec Jennifer Jones. Parce qu'il y a une dimension chez lui très, très importante et très fascinante de Pygmalion, c'est-à-dire de trouver, c'est ça en fait, lui aussi avec Scarlett, il refuse toutes les grandes actrices parce qu'il est persuadé de trouver un visage neuf. Il l'a trouvé avec Scarlett O'Hara, avec Vivien Leigh, qui est reparti en Angleterre, il l'a plus sous la main, et il va... Voilà, il va créer Jennifer Jones, qui va même épouser. Et donc,
Duel au soleil, ce sera un énorme budget, mais pas la même réussite commerciale.
Non, et plus personne. Tout le monde a été à la fois admiratif et horrifié par ce qui s'est passé. C'est ça aussi qui est très, très, très intéressant. C'est-à-dire, plus jamais ça. C'est-à-dire que plus, ça ne se renouvellera pas. Le miracle, pas de miracle deux fois.
Scarlett, c'est le titre de votre livre. François-Guillaume Laurin, il vient de paraître chez Flammarion. Merci d'avoir été sur Europe 1 pour nous le raconter. On a rendez-vous avec Nathalie Elal. On va parler des spécialités gastronomiques parisiennes juste après ça.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Nathalie Elal.
Bonjour.
Avec Sandrine Audégon, vous publiez Le goût de Paris aux éditions Hachette, un beau livre richement illustré. Vous y recensez les produits locaux, les savoir-faire, les spécialités gastronomiques parisiennes et pas seulement parisiennes, de toute l'Île-de-France. C'est vrai, on a tendance à penser que ce qui est typiquement parisien, c'est la baguette et le jambon beurre par excellence. Mais au fond, il y a plein d'autres choses.
Il y a eu plein d'autres choses. Alors je dis il y a eu parce que malheureusement, beaucoup de ces cultures ont disparu, mais dites-vous bien que pendant des siècles, en région parisienne, on avait des tas de légumes, on avait aussi des laiteries, y compris pour le coup dans la capitale, on avait du beurre merveilleux, par exemple, je pense à Vanves, on avait du pain qui était le meilleur du royaume, à Gonesse, on a eu plein de choses. Alors certaines sont un petit peu réinventées grâce à certains maraîchers, petits producteurs locaux autour du Grand Paris qui arrivent à nous fournir, à fournir la capitale. Mais malheureusement, certains sont perdus à jamais.
Le jambon de Paris, Dieu sait s'il est célèbre. Est-ce que ça vient de la foire au jambon du 19e siècle que vous racontez dans ce livre, elle-même étant l'héritière de la foire au lard qui existait depuis le Moyen-Âge ?
Alors, le jambon de Paris n'est pas l'héritier de cette foire au jambon, de cette foire au lard, mais il a été mis au point bien plus tardivement, notamment par un grand chef parisien qui s'appelait Jules Gouffet. Mais cette foire est très intéressante parce qu'elle se tenait historiquement dès le Moyen-Âge. Sur le parvis de Notre-Dame, où les gens venaient acheter. Alors, ça paraît improbable d'imaginer comme ça que devant la cathédrale, il y avait des jambons qui étaient vendus à la criée, parce que beaucoup. Il y avait aussi tous ces cris de Paris qui permettaient de vendre tout un tas de marchandises. Bon, cette foire célèbre a dérangé un petit peu trop parce qu'elle elle dérivait, elle était un peu dans les déviances, donc le clergé n'aimait pas trop. Donc, cette foire a été ensuite transportée, boulevard Richard Lenoir, et puis aujourd'hui on la retrouve, enfin on retrouve un petit peu son squelette, je devrais dire, du côté de la célèbre foire de Chatou.
Et les champignons de Paris ?
Ah, les champignons de Paris, c'est une histoire incroyable. Le champignon de Paris est né, en fait, par accident. Alors, on connaissait le champignon de Paris déjà grâce au fameux jardinier Louis XIV qui s'appelait La Quintigny, qui savait le cultiver, mais enfin, c'était quelque chose d'un petit peu anecdotique. Mais ensuite, on a découvert que grâce au fumier de cheval, dans une carrière de gypse, parce que Paris était truffé de carrières de gypse, eh bien, le champignons arrivaient à pousser à l'ombre et se développaient merveilleusement sur le fumier de cheval. Et comme, bien sûr, le cheval, l'attraction animale, c'était le principal véhicule de l'époque, vous imaginez les tonnes de crottins de chevaux qui ont dû être récoltées dans la capitale et qui ont servi à la culture du champignon de Paris pendant de longues années.
Les Halles, le ventre de Paris, va au moins engendrer deux spécialités. La soupe à l'oignon. Alors la vraie, vous le racontez, elle vient de Lyon, mais la soupe à l'oignon parisienne...
La fameuse gratinée des Halles.
Avec les tartines gratinées. Et puis les poissardes. Une expression qui est restée, hein, une poissarde.
Oui, alors on pense toujours... Moi, je pense toujours au roman de Zola, évidemment, parce qu'il décrit merveilleusement ces poissardes dans le ventre de Paris. Mais c'est vrai que les poissardes, on n'imagine pas... En fait, les poissardes, c'est Madame sans gêne. C'est-à-dire, ce sont des femmes fortes en gueule, comme on disait autrefois. Ce sont des femmes qui ont un culot monstre, qui vendent, alors que ce soit du poisson, que ce soit du beurre, que ce soit des œufs, de la volaille, peu importe. Elles sont là, elles tiennent le carreau des Halles. Elles sont couvertes de bijoux. Elles sont parées de chaînes superposées, de boucles d'oreilles étincelantes d'or. D'ailleurs, ces fameuses boucles d'oreilles qu'on appelle les poissardes existent toujours et sont bien recherchées par les antiquaires aujourd'hui encore. Mais ces femmes étaient très importantes parce qu'elles faisaient un petit peu la pluie et le beau temps. Et puis, elles étaient reçues aussi, notamment à Versailles, par le roi. Elles avaient certains privilèges, comme accéder à des loges de théâtre pour certaines représentations, aller saluer le dauphin et la dauphine. Elles avaient un rôle social important. Et ce sont les mêmes poissardes qui sont venues ensuite réclamer le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Versailles quand les choses ont mal tourné pour le roi.
Et dit qu'ils vont l'emmener à Paris. Il ne reverra plus Versailles.
Journée d'octobre.
Ni la reine non plus. Alors, il y a beaucoup de spécialités parisiennes. Vous les recensez, vous en donnez le menu dans ce livre. La salade parisienne, pas celle que l'on sert aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'était une autre salade parisienne. Les œufs Bercy avec des saucisses et du coulis de tomate. Les pommes pont-neuf qui sont l'ancêtre de la frite. Le faux filet Mirabeau. Le hareng pomme à l'huile. Ça, c'est un classique des bistrots parisiens. La morue à la parisienne, c'est l'ancêtre de la brandade, en fait.
Oui, finalement, parce que ouais. Ça a été transporté. Ce sont des Marseillais, qu'on appelait les frères provençaux, qui ont introduit la morue à Paris parce qu'ils ont amené cette recette, ils l'ont adaptée et ils ont fait découvrir aux Parisiens non seulement la morue, mais aussi la tomate et l'ail qu'on ne dégustait pas vraiment à cette époque à Paris.
Et alors le chou. Le chou, c'est vraiment l'un des légumes les plus cultivés à l'époque dans l'Île-de-France. Et je me suis dit, c'est l'explication. Au fond, on a toujours dit que Paris, autrefois, sentait le chou. C'est même le vieux chou.
Oui, parce que le chou, c'est le légume populaire par excellence. C'est le légume du pot-au-feu. C'est les soupes mijotées, revigorantes, qui tiennent au corps pour les ouvriers, pour les paysans. Et le chou était cultivé ainsi que des tas d'autres légumes qu'on appelait les légumes à pot-au-feu, c'est-à-dire notamment les oignons, dans ce qu'on appelait la plaine des vertus du côté d'Aubervilliers. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'Aubervilliers, la Courneuve. Donc, on cultivait tous ces bons légumes et qui étaient vendus, là encore aussi, sur d'abord le marché des Innocents et puis d'autres marchés parisiens, et puis ensuite sur le carreau des Halles. Et c'était les légumes populaires.
Nathalie Hellal, ne partez pas, vous avez encore plein d'histoires à nous raconter. On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et avec Nathalie Hellal, qui est l'auteur avec Sandrine Audégon du Goût de Paris, un beau livre paru aux éditions Hachette. On a mangé des rats à Paris pendant le siège de 1870. Tout le monde le sait. Quand j'étais enfant à l'école, on l'apprenait en histoire. Ce qu'on ne nous apprenait pas, c'est qu'il y avait même un marché.
Ben, il y a eu un marché aux rats parce que les Parisiens, après avoir dévoré les chevaux, ensuite les chiens, ensuite les chats, donc lors de ce fameux siège, hein, puisque Paris était assiégé par les Prussiens, se sont retrouvés à un moment donné obligés de manger du rat. Et donc, évidemment, il fallait un emplacement pour acheter cette nourriture, aussi désolante soit-elle. Et ça a été le marché de l'hôtel de ville. Donc, on a trouvé pendant au moins 3 mois, des rats qui étaient capturés vivants et qui étaient vendus, alors pour le coup, morts et dépecés. Je n'ose imaginer le spectacle peu ragoûtant de ces bestioles vendues sur la place de l'hôtel de ville à des Parisiens affamés.
Mais vous dites vous-même dans ce livre, c'était très bon, paraît-il. La terrine de rat ou le rat grillé aux échalotes, après tout, on en fait tout un monde, mais c'est pas plus horrible que du lapin.
J'imagine que bien accommodé, comme ça a été le cas à l'époque par un grand chef qui a dû y mettre de la fine champagne, des pistaches et d'autres choses, d'autres bons produits disponibles, ça a dû être quelque chose de tout à fait acceptable. Mais enfin, il faut quand même passer le cap d'imaginer la bête rampante dans votre assiette.
Au menu du réveillon du 24 décembre 1870, au Café Voisin, l'un des grands cafés des grands boulevards, café-restaurant bien entendu, au menu, il y avait le chat flanqué de rat.
Oui, donc encore une fois, ce chat, puisque les chats aussi passaient à la casserole, c'est le cas de le dire. Donc, il y a eu cette invention de mettre un chat gentiment rôti. Alors, il paraît que le chat a le goût du lapin, hein, ce que disaient nos grands-parents qui ont dû en manger aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le chat, et puis flanqué de rats en décoration avec ses petits rats autour. Oui, on peut tout imaginer. Hein.
Beaucoup plus agréable, en tout cas, imaginer que le chat flanqué de rats, il y a le homard thermidor, qui n'a rien à voir avec la Révolution, comme on pourrait le croire.
Hein. Non, en fait, c'est à l'origine, il s'agit d'une pièce de théâtre jugée plutôt médiocre à l'époque, qui s'appelle Thermidor, et qui est une création de Victorien Sardou en 1891. Et c'est vraiment cette pièce de théâtre qui est à l'origine du nom de ce plat très célèbre. Donc il y a un restaurant réputé de la Belle Époque, qui s'appelle le restaurant Maire, M-A-I-R-E, qui est situé à l'angle du boulevard de Strasbourg, qui s'empare du nom de cette pièce pour la recycler et baptiser cette nouvelle recette. Et bien sûr, ou plutôt malheureusement pour la pièce, la recette recette et le nom de la recette a éclipsé la pièce au point qu'on ne se souvient plus du tout de la pièce, mais on se rappelle encore du plat.
De même, on ne se souvient pas que le Tourne-d'eau Rossini, c'est en hommage à Rossini, le grand compositeur d'opéra. Hein.
Et surtout grand gastronome, et très 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 gourmand, oui. C'est l'appétit féroce de Rossini a effectivement inspiré le chef qui a créé le Tourne-d'eau.
Alors le Tourne-d'eau Rossini, c'est une spécialité parisienne, après ça va faire le tour du monde, mais c'est né à Paris. Et alors vous racontez que qu'est-ce que c'est que le potage parisien? Le vrai potage parisien, c'est le potage poireau-pomme de terre, tout
oui,
simplement.
Oui, le poireau-pomme de terre cher à Marguerite Duras, vous vous souvenez qu'elle en parlait aussi, elle disait que les Françaises ne savaient pas faire la soupe de poireau-pomme de terre, qu'elle la cuisait trop. Et c'est vrai que c'est quand même le potage parisien classique, tellement prisé des ménagères, qu'il porte aussi le nom de potage bonne femme. Ça, Duras ne le précisait pas.
C'est assez mignon. Alors, il y a de même des pâtisseries qui sont nées à Paris, qui font partie de ce goût de Paris que vous nous racontez dans ce livre. L'opéra.
L'opéra, ça c'est le plus bel exemple qui existe du plagiat pâtissier. Parce qu'on connaît les plagiats dans la littérature, mais il y a aussi des plagiats dans la pâtisserie. Alors je vous raconte cette histoire incroyable. On est en 1955 et il y a un pâtissier à la retraite qui s'appelle Monsieur Clichy. C'est pas une blague, on pourrait croire qu'on est sur une ligne de métro, pas du tout. Il reçoit ses deux beaux-frères dont l'un est propriétaire de la pâtisserie d'Aloyau. Et ce Monsieur Clichy avait inventé avant la guerre ce biscuit. C'est parce que c'est ce qu'on appelle un biscuit joconde, une sorte de génoise aux amandes, fourrée de crème au chocolat, de ganache au chocolat et recouvert d'un glaçage. Il sert ça à ses beaux-frères lors d'un déjeuner dominical. Les beaux-frères adorent. Une semaine après, d'Aloyau affiche ce gâteau qu'il baptise Opéra, comme par hasard, donc ce même gâteau qui en fait aurait dû s'appeler Clichy. Donc le nom est usurpé. Et l'Opéra, pour marquer probablement cette nouvelle paternité, porte un nom écrit en lettres d'or sur le dessus du gâteau. Et c'est la première fois aussi qu'on trouve un gâteau qui porte son nom sur son glaçage.
Le Paris-Brest, il est né à Paris.
Le Paris-Brest, il est né à Maison Lafitte. Alors là, on est avec un pâtissier de Maison Lafitte qui voit passer la célèbre course cycliste Paris-Brest-Paris. Vous savez, on est en 1891. C'est une boucle de 1200 km de long et ce pâtissier est sur le pas de sa porte. Il voit passer ses coureurs cyclistes et là, il a l'idée d'inventer une bicyclette de l'époque en pâte à choux. Donc, il va dresser des couronnes de tailles différentes en pâte à choux et puis il va mettre des petits choux autour qu'il va garnir de crème pralinée. Et donc, ce sont ces couronnes remplies de crème pralinée et ensuite recouvertes d'amandes grillées qui vont naître en banlieue parisienne en hommage à une course cycliste.
Merci Nathalie Elal. Il y a encore beaucoup d'exemples. Hein, le Saint-Honoré, le flan parisien, le macaron, le mocha. Il y a aussi tout ce qui concerne les alcools et les liqueurs. Merci d'être venue sur Europe 1 pour nous raconter le goût de Paris que vous avez écrit avec Sandrine Audegon et qui est paru aux éditions Hachette.
Merci à vous.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques instants, vous allez retrouver le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Sonia Mabrouk, qui est votre invité?
Bonjour cher Frédéric, notre invité pour le grand rendez-vous sera David Lisnard. Et pour l'interroger, je suis entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Eh bien, bonne émission.
Europe 1.